Alors Bernard, on va attaquer la deuxième partie de cette entrevue, cet entretien, cette discussion, comme je le dis souvent. Alors, les fake news, la désinformation. Il y a des enquêtes d'Amnesty donc, qui sont toujours, qui alimentent ce sujet ô combien sensible. Et le jeudi 30 avril, vous serez au Gazette Café à 18h.
Oui, alors nous avons l'habitude d'être au Gazette Café les jeudis, hein, à peu près une fois tous les deux mois. Donc en octobre, on avait travaillé ensemble sur le thème du droit à la justice climatique. En décembre, une campagne de soutien aux personnes discriminées. En mars, c'était sur le droit des enfants face au numérique. Et alors là, ce jeudi 30 avril à 18h, on va parler des fake news et de la désinformation.
Et ça, c'est un sacré sujet.
Oui, puis alors, il faut dire que une organisation comme Amnesty a du mal. Je voudrais, pour introduire, rappeler ce mot d'un dénommé Steve Bannon. C'est un conseiller de Trump. Enfin, je crois qu'il est fâché avec Trump maintenant.
Oui, il s'est fâché un petit peu avec Trump. Ouais. Enfin, c'est quelqu'un qui a quand même été très proche de la campagne pour Trump. Hein.
Oui,
extrêmement
oui.
Proche.
Alors, en 2018, lors de la première campagne de Trump, Steve Bannon, qui était son conseiller, avait parlé d'une stratégie, et en anglais ça donne « flood the zone with shit », c'est-à-dire que d'accord. Si on traduit en français, ça veut dire « inonder la zone de merde ». Hein. Donc, en fait, inonder la zone de merde, ça voulait dire qu'il faut dire n'importe quoi.
Et beaucoup de fois, et le répéter, si bien que ça finit par devenir normal.
Ben oui, et puis il n'y a plus de vérité, c'est ce qu'on appelait les régimes de post-vérité, et donc de fake news, c'est les news, les nouvelles qui sont fausses, et en français, de désinformation. Donc on voit que, en fait, c'est une stratégie. Hein, d'inonder la zone d'informations qui sont fausses, qui sont vraies, qui sont fausses, qui sont n'importe quoi.
Et qu'à la fin, le grand public, si j'ose dire, hein, qui ingurgite toutes ces informations via les réseaux sociaux, via les chaînes d'information dites d'information, qui sont plutôt des chaînes de désinformation, à force d'ingurgiter tout ça, ben on ne sait plus qui croire, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et puis, comme vous le dites très justement avec ce titre « Flood the zone with shit », c'est que plus il y en a, ben moins on comprend.
Voilà. Donc le rôle d'Amnesty, qui est une agence de presse sur les violations des droits humains, est compliqué hein, depuis cette inondation de fake news. Donc en fait, notre défense, c'est nos enquêtes. En fait, la force d'Amnesty, c'est la façon dont on mène les enquêtes, parce que si quelqu'un nous dit fake news, désinformation, là, on a...
Vous avez les preuves que c'est étayé.
Voilà. Alors il y a deux choses hein, pour... les enquêtes d'Amnesty, il y a le travail sur le terrain, et puis il y a le travail à distance.
D'accord.
Alors, le travail sur le terrain, c'est assez facile à comprendre. En fait, dans le monde, il y a plus d'une centaine d'équipes de chercheurs, avec des 80 salariés professionnels, des spécialistes, hein, qui sont dédiés à un pays ou à une région. Ça couvre 150 pays, et c'est par exemple... À Montpellier, nous connaissons bien la chercheuse qui est responsable du Sud-Est asiatique parce D'accord. que nous avons en charge un prisonnier d'opinion qui est emprisonné au Vietnam. Et donc, c'est par elle que nous avons des informations sur la famille. Donc, voilà. Ça, ce sont des enquêtes sur le terrain. Je peux citer... un exemple difficile, hein, qui est compréhensible, c'est celui, évidemment, de Gaza. Donc, Amnesty a un bureau régional de Moyen-Orient et Afrique du Nord.
Au Moyen-Orient et Afrique du Nord, mais dans le territoire occupé...
C'est impossible d'entrer à Gaza, vous savez, pour n'importe quel journaliste étranger. Hein, il y a un blocage total
de l'armée israélienne.
Hein. Israélienne, et même des assassinats ciblés de journalistes. Hein, il y a deux tiers des journalistes assassinés qui l'ont été cette année par Israël.
Ouais.
Donc sur 200 journalistes assassinés dans le monde, les deux tiers ont été assassinés.
Ce qui est quand même effrayant, hein, surtout quand on voit, comparé à des pays qui ont un peu l'habitude, on dirait que vous parliez de la Russie tout à l'heure, où on dit « Oh tiens, un journaliste a été assassiné en Russie, on avait un peu l'habitude ». Mais là, quand même, là on atteint des sommets.
Oui, alors notre équipe de recherche, elle est notamment... composé de Boudour Hassan, qui est une D'accord. chercheuse qui travaille à Ramallah. Et on peut lire son témoignage sur le site d'Amnesty. Avant, elle avait travaillé déjà comme chercheuse juridique chargée de plaidoyer au Jerusalem Rights Center. Et elle dit, eh bien, notre rôle, c'est de recueillir la parole des témoins, des personnes survivantes et des victimes. Et nous vérifions ces témoignages, nous les confrontons aux preuves visuelles et tous les éléments dont nous disposons, les images satellites, les rapports, les déclarations officielles.
Et on recoupe, donc c'est un travail de journaliste.
Oui, mais là c'est sur le terrain, recueillir les témoignages.
Des survivants, on peut dire, des fois, ou de ceux qui étaient juste à côté, qui étaient qui ont échappé par miracle, des fois, à la mort.
Et alors, ça c'est le premier travail sur le terrain. Et puis il y a un deuxième travail qui permet à nos enquêtes d'avoir toute la force nécessaire, c'est le travail à distance. Alors, le travail à distance, nous avons à Amnesty créé deux laboratoires. Et donc, le premier laboratoire s'appelle Security Lab. C'est une équipe avec des tas de chercheurs qui est notamment basée au Canada. Et ce sont des spécialistes qui... le but, c'est de protéger la société civile de la surveillance numérique illégale et des logiciels espions.
Qui envahissent un peu tous nos ordinateurs, hein, on n'a pas le droit de dire.
Donc là, ce sont des... Alors, beaucoup, évidemment, sont des informaticiens, mais aussi des gens
de sécurité numérique,
mais aussi des gens de la société civile, des témoignages qui sont donnés et qui sont récoltés par ce Security Lab. Alors, on a entendu parler, par exemple, de ces logiciels espions, comme Pegasus.
Oui.
Et là, c'est le laboratoire d'Amnesty qui est à la base de l'histoire de Pegasus. Predator, qui est un autre logiciel espion. Eh bien, encore cette année, enfin l'année dernière, en mai 2025, une société française, Intellexia, a développé un nouveau logiciel espion qui s'appelle Aladdin et qui peut infecter les téléphones portables à partir des publicités en ligne.
C'est effrayant.
Hein, et en Italie, alors là, ça date de juin 2025, un autre logiciel espion qui s'appelle Graphite, qui a été utilisé pour espionner un journaliste italien, notamment. Alors, dans ces cas-là, la police ou les administrations disent que c'est pour surveiller des trafiquants et terroristes, mais non.
On sait bien que c'est facile, sous l'étiquette terroriste ou en relation avec une organisation criminelle, ça brasse un peu tout. Et c'est facile de dire, oui, c'est normal qu'on les surveille, ces gens, puisque ce sont de dangereux potentiels terroristes.
Et alors, sur ce premier aspect... des Security Labs, de notre laboratoire spécialisé dans la surveillance numérique. Je voudrais citer Agnès Callamar, qui est la secrétaire générale d'Amnesty International dans le monde. Et elle dit, le système de surveillance d'Internet et le système de gestion des interceptions légales au Pakistan fonctionnent à la manière de tours de guet, espionnant en permanence la vie des citoyens ordinaires.
C'est incroyable. Il nous reste à peu près 2 minutes dans notre entretien régulier. Même 1 minute me fait signe. On va vous laisser conclure. Alors,
En fait, il va falloir que vous veniez au Gazette Café.
Voilà, le jeudi 30 avril à 18h. Pour avoir la suite.
Parce qu'on parlera du deuxième laboratoire de preuves d'Amnesty qui s'appelle Evidence Lab et qui là permet de récolter à distance avec des géolocalisations, des chronolocalisations, la reconstruction des événements qui permet de reconstituer et de donner des preuves pour lutter contre les fake news et la désinformation.
Merci beaucoup Bernard d'être venu. Et puis donc jeudi 30 avril, tout le monde au Gazette Café à 18h. Voilà. Et ceci n'est pas une fake news.
Non.